Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kaoutar Archi.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Alors, puisque la maternité destin ou la maternité esclave est l'un des points d'achoppement des féminismes, on va parler cette semaine des mauvaises mères dans la pop culture avec Kaoutar Archi. Salut!
Salut Clémentine! Et en effet, c'est un thème assez passionnant que de revenir sur cette question des mauvaises mères, en particulier à partir de l'entrée pop culturelle. Peut-être qu'avant de se lancer dans ce vaste domaine, on peut essayer de circonscrire cette question d'un point de vue peut-être un peu plus politique et en particulier un peu plus féministe, puisque effectivement la question de la maternité constitue vraiment un élément qui va structurer les mouvements féministes et les relations qu'ils vont entretenir entre eux. Dans l'œuvre beauvoirienne, par exemple, si on prend cet exemple plus que typique, on retrouve cette idée assez forte et assez régulière selon laquelle la maternité est par là l'acte de se reproduire biologiquement et l'acte aussi de prendre en charge pour une femme tout ce qui se rapporte symboliquement et matériellement à l'enfant qui est né. Simone de Beauvoir, c'est typiquement le lieu par excellence de la domination des femmes par les hommes. Donc il y a vraiment quelque chose dans la maternité qui va se jouer, qui est lié à cette question de violence masculine et de domination et de coercition.
Alors comment ça se fait que vous, qui étiez une intellectuelle, qui aviez fait des études poussées d'agrégation, vous n'aviez pas ressenti avant 40 ans la condition de la femme telle que vous la décrivez ?
Parce que j'ai vécu ma propre condition, qui était, comme vous dites, une condition d'intellectuel, qui avait la chance de faire un métier dans lequel il n'y avait pas de compétition avec les hommes, puisque l'enseignement est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. J'avais eu des camarades à la Sorbonne ou enfin ailleurs, qui, justement, sur le plan intellectuel, me traitaient tout à fait à égalité, donc je n'avais pas senti cela. Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, que je n'avais donc pas amené une vie intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. Alors, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le deuxième sexe.
On pourrait appeler une perspective matérialiste, et notamment au tournant des années 1970, de nombreux mouvements vont se faire l'écho de cette question et vont dénoncer notamment l'association très naturalisante qui va être faite entre la question de la féminité et la question de la maternité. Autrement dit, être femme serait nécessairement être mère, ou en tout cas être nécessairement encline à un moment donné de sa vie à le devenir. Le courant qui est donc assez fortement inspiré par les valeurs et par les principes marxistes vont se saisir de la question de la maternité pour dénoncer notamment l'appropriation du travail à l'œuvre dans l'expérience maternelle et plus généralement dans l'institution familiale. Or, comme on le répète assez régulièrement dans ce podcast, le groupe des femmes n'est pas un groupe homogène. Aussi, dans le contexte social où les femmes sont sujettes à la violence et aux discriminations raciales et sur lesquelles peut aussi s'abattre a fortiori la violence de la précarité économique, la question de la maternité, on pourrait dire, se structure d'une manière spécifique et distincte et d'une manière qu'il importe d'avoir à l'esprit et de ne pas invisibiliser. On peut notamment à ce titre se référer à l'ouvrage très récent de la politiste Myriam Paris qui est titré « Nous qui versons la vie goutte à goutte, féminisme et économie reproductive, une socio-histoire du pouvoir ». Dans cet ouvrage, la politiste Myriam Paris va retracer l'histoire de la création de l'Union des femmes réunionnaises à la fin de la Seconde Guerre mondiale et va de cette manière-là dévoiler les pratiques de lutte qui ont été mises en place par ces dernières pour mettre fin à quelque chose de très particulier qu'on pourrait nommer la politique antinataliste qui a été déployée par l'État français. Et on entend ici par politique antinataliste une politique concrètement matérialisée par des pratiques de stérilisation forcée, par des pratiques de contrainte à l'avortement et par des formes de stérilisation qui touchent les femmes de la Réunion. Proche de nous, et c'est un exemple qui peut très largement nous alerter et nous alarmer, on peut penser aussi au cas des femmes ouïghours.
Ma mère a été arrêtée le 29 janvier 2017 à l'aéroport et elle a été libérée sous caution et mise dans un camp de rééducation le 9 juin 2017. On sait que ces camps que la Chine appelle de rééducation s'apparentent vraiment aux camps de concentration nazis. Les gens sont dans des conditions vraiment inhumaines. Il y a des témoignages qui circulent, il y a des fuites aussi des gens qui ont travaillé dans ces camps-là.
Les femmes ouïghours appartiennent à ce peuple turcophone de confession musulmane et qui vit sur une partie du territoire chinois. Et la Chine et un certain nombre d'articles et de missions humanitaires reviennent sur cette question-là en dénonçant les pratiques de stérilisation des femmes ouïghours, sans leur consentement bien sûr, et cela dans le but d'assurer une forme de domination ethno-religieuse, ethno-raciale, à partir du contrôle strict des naissances et du contrôle strict du corps des femmes ouïghours. Donc on voit bien que selon l'endroit où l'on se place, selon qu'on traite du nord global ou au contraire du sud global, la question des maternités est un enjeu politique fort, mais qui ne peut en aucun cas être réduit à une lutte féministe. Il y a quelque chose, à mon avis, qui est beaucoup plus complexe et qui mérite à chaque fois d'être historicisé et contextualisé.
Oui, alors pour revenir justement à ces illustrations par la pop culture, on se souvient à l'écran de la mère au foyer de la série Mad Men, Betty Draper, qui est un exemple assez iconique et qui a véritablement explosé en plein vol au cours de cette série.
I'm tired of everyone telling me to shut up. I'm not stupid.
Comme pour montrer que ce modèle, donc celui de la femme au foyer parfaite des années 50 aux États-Unis, n'était pas tenable. Et aujourd'hui, malgré les téléréalités natalistes qui présentent souvent une image d'épinal, on peut citer par exemple Yummy Mummies.
These yummy mummies are about to meet their biggest competition.
Why she invited us to her baby shower? I don't even know her.
Des œuvres prennent à rebours ces stéréotypes-là, jusqu'à parfois en faire un repoussoir. Et c'est tout à fait OK. Mais malgré la diversité des figures qui nous sont présentées, on note que la culpabilité reste quand même souvent le personnage principal de ces œuvres et que ce qu'on appelle le phénomène du mom-shaming, donc le fait de faire honte aux mères, continue à se perpétrer avec le stéréotype, par exemple, de ce qu'on appelle en anglais les mommy wars, c'est-à-dire des mamans qui se crêperaient le chignon. C'est une sorte de légende urbaine à laquelle la série Big Little Lies prête le flanc. D'ailleurs, au début, en tout cas, de sa première saison.
Everybody wants to prove who's the richest.
We're talking about viciously competitive people.
And at the root of it was Madeline.
Bref, ce modèle qui a l'air d'être un modèle unique de la mère parfaite dévouée à sa famille. On peut aussi citer le miroir inversé, c'est celui de la cool mom, bonne amie, permissive. En tout cas, c'est un modèle dont la télévision états-unienne a vraiment fait la promotion, en tout cas dans la période de backlash, donc celle des années 70-80. Et elle a finalement été mise à mal par d'autres modèles. On peut citer notamment Roseanne dans la série du même nom, qui était une mère prolétaire.
Hello, Becky.
Oh, hi, Mom.
Hi, honey. Listen, I've only got a second, and I need you to do me a big favor. Call up Dwight at the store and tell him to drive over to your dad's job site. He knows where it is. Are you writing this down?
Yes, Mother.
Okay, tell Dwight to tell Dad that you're not writing this down at all, are you?
Yes, I am.
Becky.
All right.
En galère et surtout qui n'était pas que mère, puisque l'enjeu pour les scénaristes c'était bien de développer des personnages qui ne rentrent pas a priori dans cette case-là, par exemple les mères criminelles dans la série Good Girls, et surtout qui ne sont plus uniquement des personnages périphériques, sinon ce sont souvent des rôles peu gratifiants. D'ailleurs on voit bien le statut très réduit de la femme de 50 ans au cinéma. Il faut dire aussi que les séries ont pris d'une certaine manière le relais du cinéma. De notre côté, on peut trouver aussi que les défauts sont sans doute plus intéressants que la perfection.
Can I get an amen?
En essayant de me souvenir des séries qui ont marqué mon adolescence, la série Malcolm en particulier, je trouve que c'est vraiment une série qui a poussé très loin, enfin en tout cas, il me semble, la question de la représentation de la mauvaise mère. Le personnage de Loïs, que j'imagine vous êtes nombreux et nombreuses à connaître, et si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment de partir à la découverte de cette famille-là. Le personnage de Loïs, par exemple, c'est un personnage haut en couleur.
This is crazy. I have enough in my mind without worrying about you boys and your shenanigans.
But Mom,
you and your brother are not to leave this room. I don't want to see you, I don't want to hear you, I don't want to so much as sense your presence.
Qui semble prendre les traits effectivement de la mauvaise mère, puisqu'elle paraît a priori plutôt forte, mais forte au sens de plutôt féroce, une mère très affirmée, une mère, on pourrait même dire, quasi répressive. Enfin, en tout cas, on passe beaucoup de temps dans la série à la suivre dans ses tentatives de punir ses fils et de les punir de manière efficace, puisque ses fils sont des fils particulièrement turbulents, prêts à tenter toutes les bêtises du monde. Et au final, je pense qu'en repensant un peu à cette série et puis en la croisant un peu avec tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui de la question des représentations pop culturelles, je pense que c'est important aussi de revoir à quel point le personnage de Loïs, il est profondément lié à la figure de son mari, qui est Al, qui est un mari et un père assez enfantin, assez ailleurs, dans une sorte de monde parallèle assez féerique et enjoué. Et on voit bien ici que le rôle de la mauvaise mère que Loïs est censée incarner, elle l'incarne aussi d'une certaine manière parce que son mari n'est pas présent. Ou en tout cas, il forme une sorte de couple répressif, permissif, assez détonnant. Loïs peut nous aider à éclaircir un peu, encore plus que la question maternelle, la question parentale, qui me semble être posée très fortement par ces deux personnages.
Oui, et peut-être que quand on s'occupe de toute la charge mentale, on a peut-être de bonnes raisons d'être de mauvaise humeur aussi.
Complètement.
Oui, alors on l'a dit, les portraits de mères non conformes, en tout cas à ces idéaux, se multiplient ces jours-ci. Il y a notamment les mères qui ne sont pas hétérosexuelles, donc des mères queer, qui montrent que d'autres sexualités parentales sont possibles à l'écran. On peut citer les séries Sex Education ou encore The L Word, et on voit quel type de pression en fait repose sur ces types de maternité, puisqu'elles doivent encore plus que les mères hétérosexuelles être parfaites et être sans reproche.
You do not get to talk to me that way.
No, everything you do becomes my fucking problem. Do you even know how humiliating it is to be your daughter?
On peut aussi citer les mères trans, puisque c'est le programme vraiment de la série Transparent, comme son nom l'indique. Également la mère handicapée, qui joue dans la série anglaise Years and Years. Et cette question-là n'est absolument jamais présentée comme un problème, c'est vraiment un personnage normal parmi tant d'autres. Je pense qu'on peut aussi parler de sexualité et de pratiques sexuelles, puisque les mères désirantes entrent parfois en conflit avec ces représentations de la perfection maternelle. Avec la série Mrs. Fletcher, dans laquelle une quadra va retrouver sa vie sexuelle au départ de son fils pour l'université, et c'est-à-dire au moment où lui-même va découvrir sa propre sexualité.
We're free from our kids. Take a long bath, turn your brain off, and think about opening up to new things.
Et on peut aussi penser à la mère qui est psy, jouée par Gillian Anderson dans la série Sex Education. Et une autre manière de ne pas rentrer dans ce moule de perfection féminine, donc une autre génitrice qui est non conforme, car elle est non blanche, c'est Luca, donc la femme noire qui a un enfant métis dans la série The Good Fight, et qu'on va prendre pour la babysitter de son propre enfant.
Je trouve vraiment très intéressant que tu parles de la série The Good Fight et ce personnage de Lucas. On mesure bien ici à quel point la possibilité de subvertir d'un point de vue narratif la question maternelle, elle devient politique, c'est-à-dire qu'elle devient le lieu d'un rapport de force, d'une lutte ou d'un conflit, dès lors que la figure maternelle renvoie à quelque chose d'une forme d'anormalité. Et ici, on sent bien que ce qu'on appelle anormal, c'est vraiment quelque chose qui, en vérité, n'est pas normé. Ça pose vraiment un ensemble de tensions qui renvoient, il me semble, à chaque fois les spectateurs ou les spectatrices, en tout cas, c'est comme ça que je le vis souvent, dans la question comment est-ce qu'on fait pour habiter cette position-là, en fait. Et cette position, c'est une position habitable, puisque des femmes d'ores et déjà l'habitent, et en même temps, elle est sujette à de nombreux conflits, à la fois intérieurs, mais aussi extérieurs. La série Good Fight, je trouve qu'elle est intéressante aussi, parce qu'elle permet d'évoquer notamment, à travers ce personnage toujours de Lucas, en creux, et je trouve que c'est quelque chose qu'il ramène assez bien et assez finement dans la série, c'est vraiment la question de la spécificité de l'expérience maternelle des femmes noires et plus généralement l'expérience maternelle des femmes racisées. En effet, on peut dire que l'histoire de l'esclavage, que les stéréotypes raciaux et sexistes, que les politiques dites sociales qui ont été menées dans un certain nombre de pays occidentaux à effet stigmatisant et à effet répressif sont autant d'éléments qui ont contribué à forger un paradoxe assez fort, à savoir que les femmes noires seraient de mauvaises mères pour leurs propres enfants, mais seraient de bonnes mères, donc de bonnes nourrices ou de bonnes mères de substitution pour les enfants des autres et en particulier pour les familles blanches bourgeoises. Cette présentation de ce qu'on appelle la « bad black mother » est notamment assez présente dans le film, en tout cas un film moi qui m'a beaucoup touchée, qui est « Losing Isaiah », où Halle Berry incarne le rôle d'une jeune mère noire dépendante à la drogue.
« My baby ain't dead. Where is he?
It is accordingly therefore ordered that Isaiah Richards the minor
That's me!
Shall be to all legal intents and purposes the child of Charles and Margaret Lewin.
You gave your child up for adoption, now you want him back.
Et cette représentation, cette image de la mère noire dépendante à la drogue, si vous y êtes un peu attentif, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement dans beaucoup de films ou de séries américaines. C'est un personnage récurrent. Halle Berry qui abandonnera donc son enfant et enfant qui sera sauvé par une famille blanche bourgeoise de la bonne société.
C'est ce qu'on appelle le white savior.
Exactement. Propension de la blanchité à se positionner comme sauveur ou comme modalité de sauvetage des opprimés ou des subalternes et qui renferme en vérité un rapport de force plus que puissant. Et la dimension moins maternelle mais plus nourricière, dans une acception qui est quasi animalisante, se retrouve très fortement dans cet exemple que tu donnes, Clémentine, à partir du personnage de Lucas, puisqu'en effet, cette jeune femme noire n'est supposée être une bonne mère que parce que l'enfant dont elle s'occupe est présumé ne pas être le sien. Donc on voit ici à quel point, comme je le disais en introduction, en fonction des propriétés sociales des personnages représentés, une forme de maternité s'avère être intéressante à vivre ou au contraire classée comme source d'un opprobre, d'une forme de honte, d'une forme de déviance, voire parfois d'une forme de criminalité à venir.
Oui, il y a aussi d'autres personnages qui ne remplissent pas ce contrat social qui est attendu de manière sous-jacente et toutes ces injonctions contradictoires qui accompagnent la maternité. Il y a notamment les mères célibataires qui sont particulièrement stigmatisées. On peut penser à la série Better Things dans laquelle l'actrice Pamela Adlon...
Are you dating Luke? Oh, ew, no, I'm dating my daughters.
Qui est une personnalité pas antipathique mais assez revêche. Pas du tout sentimentale et assez peu féminine, a fait de sa vie vraiment une série.
So when you watch your mom's show, which is excellent, are you like, wait a minute, mom, I said, please don't tell that story.
You know, I feel like we've kind of all gotten used to the fact that I feel like what I've been through, she's also been through. So it's her story as well. And she's very respectful when it comes to, you know, if we don't want her to use something, she won't. But, you know, it is a show at the end of the day. Yeah. Right. Some things are...
Qui aborde sa situation de mère célibataire avec trois filles, qui parle aussi du vieillissement des femmes et des actrices, de la ménopause. Selon le New Yorker, ce serait la plus belle déclaration d'amour à la maternité célibataire. Et je trouve que la série souligne très bien les liens assez précieux entre ces générations de filles et de femmes. D'ailleurs, je vous recommande la dernière saison et son épisode sur la bar mitzvah quinceañera, qui est à mon avis un sommet de cette série. Alors une autre manière de déroger à cette perfection maternelle, c'est de travailler. Donc les mères salariées, et je pense un exemple vraiment typique, ce sont les femmes en politique. Et notamment, on l'a vu avec la série danoise Borgen, dans laquelle la femme qui est Premier ministre est accusée de négliger sa fille. Et plus récemment, sur Netflix au Canada, on a pu voir la série Working Moms.
I'm not so sure I want to go back to work. 8 months is not that much time. Soldiers with PTSD are given longer.
Are you comparing yourself to a war hero?
No, of course not. Childbirth is way harder.
Qui parle justement de la reprise du travail après un congé maternité et du sentiment d'abandonner son enfant, mais aussi de cumuler une double journée. Et donc la créatrice de la série, qui est l'actrice Catherine Reitman, expliquait au magazine Variety, il y a une répression contre les mamans, on s'attend à ce que nous travaillions à temps plein tout en prétendant ne pas être mère, puis que nous nous transformions en mère à temps plein tout en prétendant que nous ne travaillons pas, simultanément dans les heures de la semaine existantes. assistante. Voilà. Donc on voit bien toutes ces injonctions paradoxales et tous ces tiraillements qui sont impossibles à remplir. Je pense qu'il y a aussi la question de la santé mentale qui est importante d'aborder face au discours béat sur la maternité. Ça, on en parle dans la série qui s'appelle en anglais The Let Down et en français Super Maman, qui est vraiment un titre assez affligeant. Et aussi diffusé sur Netflix, qui est une série australienne et qui parle donc de burn-out, de charge mentale, domestique et aussi de fausse couche. Et donc la créatrice et l'actrice de la série Alison Bell expliquait au journal The Guardian: on ne veut pas juger qui que ce soit, les attentes des parents ne sont en fait jamais à la hauteur, et c'est d'ailleurs tout le sujet de la série. Notre génération a vraiment ingurgité tellement de versions différentes et glamour de la maternité qu'il faut déconstruire tout ça. On ne pourra pas être parfaite, on ne peut que faire de son mieux. Alors il y a aussi un exemple qui est fréquemment cité quand on parle de mauvaise mère, c'est le film Bad Moms, qui a été un vrai succès. I'm gonna try to do everything by myself today. It should be fine. As long as everybody does what they're supposed to do, right? Moi, j'aime pas tellement ce film parce que je trouve qu'au lieu de trouver la source des injonctions maternelles, le film préfère rejeter la faute sur un individu qui est une méchante maman qui tyrannise tout le monde. Voilà, donc je trouve que ça n'explicite absolument pas quoi que ce soit. Par contre, je recommande chaudement les séries de la scénariste et actrice anglaise Sharon Horgan, qui est à mon sens un vrai génie et qui est assez peu connue en France. Il y a notamment Catastrophe et aussi Motherland. I really admire how you can just switch off your family and focus on your job because I would just hate myself too much. I hate myself. Qui ont été diffusées sur la BBC. Motherland, ça parle de ce qu'on appelle les mères alpha, donc les mères qui règnent un peu dans la cour de récré, et des autres mères qui se sentent justement incompétentes et qui font de la résistance au parenting. Et d'ailleurs, dans la série, on voit à peine les enfants, on voit surtout les parents au bout de leur vie et qui sont pas du tout enthousiastes à l'idée d'accompagner leur progéniture en sortie scolaire ou d'organiser des anniversaires et qui préfèrent picoler discrètement, voilà. Voilà, je vous le recommande.
En parlant de la figure maternelle, on peut aussi envisager un film qui, à mon avis, a touché un certain public. Je pense au film Mommy de Xavier Dolan.
Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans.
Qui expose un lien, qui expose une manière d'être mère face à un garçon qui est lui-même dans une sorte de recherche de sa propre signification, du propre sens de sa vie, qui se finit de manière assez tragique. Si vous ne connaissez pas ce film, je vous invite vivement à aller le découvrir. Et le personnage de la mère, encore une fois, c'est un personnage assez haut en couleur qui, pour moi, a vraiment la capacité de jouer tous les rôles, c'est-à-dire on sent qu'elle désire être une bonne mère pour son fils, mais qu'en même temps, elle essaye aussi de tenir quelque chose d'une forme de féminité, qui est une féminité assez peu classique qu'elle met en œuvre et qu'elle essaye de tenir. Et je pense notamment en parlant à cette scène que je trouve très belle, qui est une scène où elle danse avec son fils au moment où ce dernier lance un disque, une chanson de Céline Dion dans la cuisine.
Quand ça commence, tâche ta dessus, check ça. C'est bon.
On dérange pas. On met juste les costumes d'autres sur le soir.
Je trouve que c'est un film qui réussit à faire ça, qui réussit à montrer à quel point cette femme va très vite en fait toucher les limites de ce qu'elle peut faire en tant que mère et qui va essayer de les repousser en étant autre chose, en étant la copine de son fils, en étant un peu sa sœur, en étant un peu sa confidente, en étant... Donc on la voit chercher quelque chose qui ne semble pas entièrement résolu par cette position, par cette fonction maternelle ou maternalisante. Ce film-là, Mommy de Xavier Dolan, peut être aussi interprété ou en tout cas revu dans cette perspective-là.
Oui, c'est vrai qu'il y a un cumul de fonctions chez les mères qu'on voit assez peu chez les pères. Mm. Et pour parler aussi un peu de littérature, il y a un exemple assez beauvoirien, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux.
Tout à fait, oui.
Qui raconte comment elle-même s'est transformée en une sorte de robot à la naissance de son premier enfant. Et c'est vraiment poignant, et surtout, ça vient contredire vraiment toute la propagande nataliste, les discours béats sur la maternité comme accomplissement ultime. Et plus proche de nous, il y a aussi Dans le jardin de l'ogre de Leïla Slimani qui a de très belles pages sur le fait de, quand on est parent, quand on est mère, d'avoir l'impression de tout rater, de passer un peu à côté de sa vie. Voilà, on écoute un extrait.
Lucien est un poids, une contrainte dont elle a du mal à s'accommoder. Adèle n'arrive pas à savoir où se niche l'amour pour son fils au milieu de ses sentiments confus, panique de devoir le confier, agacement de l'habiller, épuisement de monter une pente avec sa poussette rétive. L'amour est là, elle n'en doute pas, un amour mal dégrossi, victime du quotidien, un amour qui n'a pas de temps pour lui-même. Adèle a fait un enfant pour la même raison qu'elle s'est mariée, pour appartenir au monde et se protéger de toute différence avec les autres. En devenant épouse et mère, elle s'est nimbée d'une aura de respectabilité que personne ne peut lui enlever. Elle s'est construit un refuge pour les soirs d'angoisse, et un repli confortable pour les jours de débauche.
Et en littérature toujours, on peut aussi penser au très beau récit « Beloved » de l'écrivaine africaine-américaine Toni Morrison, qui narre l'histoire de Seth, une ancienne esclave qui est hantée par le fantôme de sa fille, fille qu'elle a tuée dans une grange quelques années auparavant afin de préserver ou d'empêcher que cette dernière soit à son tour réduite en esclavage. Vraiment sur la question de la maternité dans un contexte raciste, dans un contexte sexiste, dans un contexte politique extrêmement violent, de persécution quasi séculaire, je trouve vraiment que Beloved de Toni Morrison peut vraiment occuper la première place sans aucune difficulté sur ce que représente cette épreuve-là, en fait. Et ici, poussée à son paroxysme, à partir d'un fait historique avéré, puisque le personnage de Seth, que Toni Morrison met en scène, est un personnage qui a véritablement existé. Une femme a véritablement tué sa petite fille qu'elle aimait d'un amour infini pour l'empêcher de devenir, la protéger de l'esclavage qui l'a menacée. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas cet ouvrage-là, ou l'œuvre plus généralement de Toni Morrison, n'hésitez pas à vous y plonger. Ça remet en perspective un certain nombre de points extrêmement violents à partir de cette entrée maternelle. D'un point de vue peut-être plus militant et plus proche de nous aussi dans l'actualité, on peut souligner la parution récente ou prochaine, puisqu'il paraîtra fin août, de l'ouvrage de la politologue Fatima Wasak, titré « La puissance des mères ». Pour un nouveau sujet révolutionnaire. Je dis que Fatima Wasak est politologue, mais je devrais aussi préciser qu'elle est cofondatrice du Front de Mères, qui est le premier syndicat des parents d'élèves des quartiers populaires, et elle préside le réseau classe, genre, race, qui lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l'immigration postcoloniale. Et son ouvrage, titré, je le répète, « La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire », le sous-titre me semble assez important, appelle à reconsidérer l'expérience parentale et maternelle, en particulier comme porteuse d'un potentiel politique transformateur et révolutionnaire. Je vous propose avant de lire les premières pages de l'ouvrage de Fatima Wasak pour vous donner quelque chose de la tonalité du travail qui est le sien. Donc c'est une introduction, les premières pages de l'introduction, titrée « La puissance du dragon ». J'ai vécu le fait d'être mère dans la tension, comme un paradoxe. Je me sentais puissante et dans le même temps neutralisée, dépossédée de cette puissance. J'ai vécu le fait de porter la vie et de prendre soin de mes enfants comme quelque chose de stupéfiant. Les jours passaient et je n'en revenais pas. Tout était possible. Quelle chance de pouvoir plonger à nouveau dans l'univers enfantin. Sa magie, les jouets, la découverte du monde. Tout était simple, le bien et le mal, ce qui était juste et ce qui n'était pas. Les gentilles sorcières qui gagnent à la fin contre les méchants princes. J'étais la grande dans l'histoire. Je protégeais mon petit. J'avais un pouvoir immense, la puissance du dragon. J'étais prête à tout pour mes enfants. Personne ne leur ferait de mal, j'y veillerais. Ils ne subiraient pas les injustices que j'avais subies, ils connaîtraient les bonheurs que j'avais connus, j'en avais la responsabilité, j'en avais le pouvoir. Et là où quelque chose se passe, et Fatima Wasak précise ainsi, mais dans le même temps, pendant les premiers mois de mon aîné, je ne me suis jamais sentie aussi dépossédée et fragilisée. Dès l'accouchement, mes ambitions de dragon ont été endiguées. Je ne décidais pas. Je me prenais pour qui ? Je devais m'abandonner aux pratiques obstétricales inadaptées, infantilisantes et brutales, en subir les conséquences et souffrir en silence. La boule au ventre, tous les jours. Qu'allaient devenir mes enfants ? Je n'étais pas qualifiée pour en décider. Ou alors, seulement à la marge. La couleur des chaussettes, la marque des couches culottes. D'autres, des experts, se chargeraient de ce qui est important et ils s'en chargeraient mieux que moi. Le corps médical, les industriels, les médias, le ministre de l'Intérieur, celui de l'Éducation nationale, tous allaient prendre mes enfants sous leurs ailes et s'occuper de leur destin. Aie confiance, petite maman. Tout ce petit monde allait leur inculquer progressivement, dès leur premier âge, la manière dont le système fonctionne et hiérarchise les individus selon leur classe sociale, leur couleur de peau, leur sexe. Leur faire accepter ce système fondé pour l'essentiel sur l'exploitation et la domination, leur faire croire qu'il va de soi et qu'il est le seul possible. Je m'arrête là pour l'ouvrage de Fatima Wasak, mais ça peut vous donner une sorte d'indication, de tonalité, comme je le disais, par rapport au propos qui est le sien et par rapport aux contradictions qui peuvent traverser cette expérience maternelle, encore une fois, dans des contextes sociaux et dans des contextes socio-historiques particulièrement marqués par la violence sociale.
Ça a l'air génial, franchement. Merci de l'avoir lu.
Et ce livre de Fatima Wasak, on peut aussi lui reconnaître un intérêt important, notamment parce qu'il revient sur une question très particulière, qui est notamment la question de la maternité, de la représentation des mères musulmanes qui portent le voile, et notamment dans leur rapport avec l'institution scolaire, d'une manière aussi avec l'institution judiciaire, médicale et policière. Et c'est là, il me semble, quelque chose d'assez important, puisqu'effectivement, d'une part, on trouve très très peu de représentations culturelles qui touchent à cette question-là, à la question de ce que signifie être une mère musulmane qui porte le voile en France. Et cela mérite d'être amplement posé, d'être mis en avant, puisque l'actualité française, par ailleurs, nous offre régulièrement des épisodes plus ou moins tragiques et révoltants de la manière dont les mères voilées sont souvent déconsidérées comme mères parce que portant le voile.
La scène se passe ici, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. La séance dans l'hémicycle est filmée en continu. Ce jour-là, vendredi dernier, des enfants assistent au débat. Un groupe d'élèves vient de rentrer lorsqu'un élu du Rassemblement national demande la parole.
Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît.
Donc c'est une histoire qui est à creuser, qui est à suivre et sur laquelle on peut espérer continuer à réfléchir collectivement.
Oui, il y a également des rendez-vous auxquels vous pouvez vous rendre cet été pour justement penser ces questions-là. Il y a notamment le festival Very Bad Mother qui devait avoir lieu au mois d'avril et qui a été reporté à début août, qui se tient à Concarneau en Bretagne. Donc c'est un festival, je cite, qui souhaite montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle familial et parental possible. Parmi les thèmes qui vont être abordés lors de ces journées, il y aura l'éducation collective, l'andiparentalité, la transparentalité, l'homoparentalité ou encore la contraception masculine. Également, il y aura des temps forts de solidarité entre femmes bretonnes et, je mets des guillemets, femmes de banlieue. Les organisatrices ont d'ailleurs convié le collectif Femmes en lutte 93 et le groupe des mamans de Mantes-la-Jolie. Une carte blanche est aussi donnée à Geneviève Bernanos, qui vient du collectif des mères solidaires contre le fascisme. Et il faut aussi souligner que la rennaise Awa Gay de Justice et Vérité pour Babacar sera également présente à cette table ronde. Voilà, donc on espère que vous pourrez y aller et nous raconter. Vous pouvez également suivre plusieurs comptes Instagram, notamment Bordel de Mer, qui est animé par Fiona Schmidt. Vous pouvez lire son livre Lâchez-nous l'utérus sur la charge maternelle. Et vous pouvez aussi suivre le compte Instagram Very Good Mother, qui est très drôle. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le description de l'épisode sur votre appli. Vous pouvez nous dire si cette question des mauvaises mères vous parle ou pas en nous écrivant sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être mieux référencés. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Ce sera le dernier de la saison et on parlera de rivalité féminine. Voilà tout un programme. Merci, salut Kaoutar.
Merci beaucoup Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo
et Dr Archi.
Mixage par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et coordination Achille Tola.